Apis mellifera. Le rendez-vous de Gaël Matura avec le rucher école du CPIE de Caylus.
Et bonjour, la chronique Apis mellifera où on poursuit aujourd'hui à propos de la cire avec Gaël Matura. Bonjour Gaël.
Bonjour Lisa.
Et aujourd'hui tu nous emmènes du pire au meilleur concernant cette matière.
Oui, alors lors de la première partie, je vous avais expliqué comment la cire est produite par l'organisme des abeilles. On avait parlé de son utilisation pour la construction des rayons d'alvéoles et des opercules. Et je vous avais également détaillé l'utilisation par l'apiculteur et sa gestion pour le renouvellement des cadres. Ça faisait beaucoup de choses déjà. Et pour finir, je vous avais présenté le papillon de la fausteigne dont la chenille consomme la cire. Eh bien aujourd'hui, nous poursuivons avec un descriptif des méthodes pour récupérer la cire et des problèmes de résidus que l'on retrouve dans ces cires. Et puis on terminera par une petite recette à base de cire d'abeille.
Et pourquoi un apiculteur pourrait souhaiter récupérer la cire issue de ces ruches? On pense que les produits à valoriser dans le miel, on pense justement au miel, propolis, pollen. Alors est-ce qu'on passe à côté de quelque chose avec la cire?
Alors oui, on va se mettre bien d'accord, à moins de décider de remplacer tous vos cadres en cire par des cadres avec alvéoles en plastique, ça existe, hein, c'est pour ça que je vous le dis, vos abeilles, elles, vont produire de toute façon de la cire. Elles sont programmées génétiquement pour cette tâche. Pour vous donner quelques chiffres, en 2018, la France a importé environ 122 tonnes de cire d'abeilles. Ça représente une augmentation de plus de 50% par rapport aux importations de 2017. Et la France a exporté 35 tonnes de cire. Là aussi, une augmentation d'environ 20% par rapport à 2017. Alors, on importe de la cire pour nos besoins. Elle vient de Chine à plus de 36%, pardon, d'Allemagne 25% et la Russie un peu plus de 10%. Et on exporte notre production de cire vers l'Italie et la Belgique. Donc vous voyez, on a besoin de cire puisqu'on en importe des grosses quantités. Et pour estimer une production de cire, on s'accorde à dire que pour 100 kg de miel produit et récolté, l'apiculteur va pouvoir récolter 3 kg de cire seulement.
La fabrication de la cire par les abeilles dépend donc de la quantité de miel disponible pour servir de carburant aux glandes cirières. C'est à peu près ça.
C'est tout à fait ça. Alors la production de miel français a fortement baissé ces dernières années. En 2018, on a produit 27 000 tonnes de miel contre 35 000 tonnes de miel en 1994. Et pour rappel, le gaucho, qui contient l'imidaclopride, un néonicotinoïde, a commencé à être employé en France en 1994. Et le régent, autre insecticide tueur d'abeilles, qui lui contient du fipronil, lui a commencé à être utilisé à la fin des années 90. Et alors très logiquement, la production de cire, eh bien, elle a diminué, puisque cette production de miel a diminué. Or, on ne peut pas élever des abeilles et conduire un rucher sans cire. L'apiculteur peut raisonner pour utiliser le moins de cire possible, mais il lui faudra quand même amorcer ses cadres, à minima, on va dire. Dans la ruche horizontale et dans la ruche varée, on travaille habituellement uniquement avec des amorces de cire, voire même juste un fil de cire fondue sur une barrette. Certains apiculteurs utilisent des cadres avec juste une petite planchette en bois qui remplace l'amorce. Et les abeilles vont démarrer leur construction sur cette barrette en bois. À partir d'une feuille entière, ou d'une amorce, ou d'une barrette, dans tous les cas, la colonie va bâtir un rayon de cire.
Et pourquoi on propose ces amorces ou ces feuilles aux abeilles? Que se passerait-il dans la ruche si on n'amorçait pas les cadres?
Eh bien, ça serait un beau bazar. Ces feuilles ou ces amorces, elles permettent de guider le travail de construction des abeilles. Elles bâtissent les rayons bien parallèles les uns aux autres. Si le premier rayon n'est pas parfaitement positionné dans le corps de ruche, les autres rayons vont continuer à être de travers. Et évidemment, le travail de l'apiculteur va s'en trouver compliqué.
Et les avantages pour l'apiculteur suivant qu'il utilise des feuilles entières ou des amorces?
Alors, lorsque l'apicultrice, on va changer un peu de genre, hein, décide d'amorcer ses cadres, elle est moins dépendante de la cire. L'apicultrice, elle a besoin d'en acheter moins, d'en avoir fait gaufrer moins. C'est de toute façon un calcul entre le coût financier et le temps disponible. L'autre avantage très important à signaler, c'est que cette apicultrice, elle dispose de cire produite uniquement sur son rucher. Elle maîtrise donc totalement l'origine de la cire. L'inconvénient de ne poser qu'une amorce étant que cela prend un peu plus de temps pour les abeilles, pour bâtir, et que l'on ne peut pas extraire ces cadres à l'extracteur car les constructions sont trop fragiles.
Tu peux nous préciser cette histoire de solidité à l'extraction ?
Lorsqu'on dispose d'un petit rucher, de 5 à maximum 10 ruches, on peut extraire par pression. Les rayons de miel sont découpés, pressés, écrasés, et on laisse ce miel s'écouler naturellement. Il suffit d'être patient. Mais dès que l'on dispose d'un plus grand rucher, et à moins d'être rentier, ce qui n'est pas le cas des apiculteurs d'aujourd'hui, il n'est pas très réaliste de ne pas extraire avec un extracteur adapté à la taille de votre production de miel. L'extracteur, c'est une cuve dans laquelle on place les cadres désoperculés et on les fait tourner très vite pour évacuer le miel des alvéoles grâce à la force centrifuge. Si la cire n'est pas bien bâtie ou si elle est sur des cadres sans fil ou juste amorcés, les alvéoles vont se détruire et le cadre est à moitié détruit lui aussi. La partie cire en tout cas. Et de plus, la cire qui a été construite dans cette année-là, est plus fragile qu'une cire ayant 2 ans.
En introduction, Gaëlle, tu as signalé que la cire pouvait être source de problèmes. De quel genre de problèmes, donc ?
Alors la cire, je vous avais dit lors de la première émission qu'elle a une composition lipidique, donc faite de corps gras. Et cette composition, elle concentre beaucoup de substances. Au cours du temps et de l'utilisation qu'on va faire de cette cire, elle va se charger de différentes molécules qui ne sont pas les bienvenus. Alors, les principaux résidus qui contaminent la cire sont les acaricides. Une partie des traitements qu'on utilise contre le varroa utilise des molécules chimiques qui se stockent dans la cire des cadres de corps, là où on pose les traitements. Car je rappelle que normalement, lorsqu'un apiculteur pose ses traitements contre le varroa, il n'y a jamais de hausse en place. Et donc, il n'y a jamais de production de miel en cours. Idem pour la production de pollen ou de propolis que l'on ne fait pas tant que l'on fait un traitement sur le varroa. Alors la substance la plus retrouvée en termes d'acaricides au cours des différentes analyses ces dernières années, c'est une substance qu'on appelle le tofluvalinate que l'on retrouve 9 fois sur 10 dans les analyses de cire que l'on fait, ce qui est énorme. Varroa est devenu résistant à cette molécule et on a abandonner l'utilisation du tofluvalinate. Mais par contre, malgré l'abandon de cette molécule, on trouve toujours des résidus dans les cires. Donc ça met très 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 longtemps à sortir des circuits de commercialisation cire. Ce tofluvalinate, on l'a remplacé par l'amitraze. Alors cette molécule, c'est pas elle directement qu'on retrouve dans la cire, mais on retrouve ses métabolites. C'est-à-dire que lorsque l'amitraze se dégrade au cours du temps, elle forme de nouvelles molécules avec des noms imprononçables. Je vais vous les dire quand même. C'est le diméthylformanilide et le méthylformamidine. Bref, il faut juste se rappeler que dans les analyses, vous ne verrez pas le mot marqué amitraze. Et donc, sur les analyses, ce sont ces molécules que l'on détecte. Dans les analyses de cire, on retrouve aussi la présence d'une molécule qu'on appelle le coumaphos, qui est retrouvée 6 fois sur 10. Et cette substance, elle est officiellement interdite depuis 2002. Et vous voyez, 2002, 2021, on trouve toujours cette substance dans les cires. Alors, je vous cite que ces molécules, mais en fait, il en existe des dizaines et des dizaines d'autres, à des concentrations moindres que les molécules que je viens de vous citer. Mais ces résidus, c'est un vrai problème.
Et est-ce qu'ils ont un impact sur les abeilles ? Alors sur le miel, oui, sur la cire, oui. Mais donc ces résidus de produits de traitement contre le varroa, par exemple, est-ce que
cause des dommages?
Alors, il y a eu une grande étude européenne, un programme de recherche qui a été fait. Ce programme, il s'appelle le projet CIR, évidemment. Et apparemment, il n'y aurait pas d'impact sur le développement du couvain et sur la longévité des abeilles. Par contre, ces contaminants, ces substances chimiques, peuvent se retrouver dans le miel à des doses très, 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 très faibles qui ne sont pas, d'après les normes actuelles, qui ne sont pas gênantes pour la santé. Mais ça peut quand même migrer vers le miel.
Est-ce qu'il y a d'autres problèmes liés à la qualité de la cire que ces traitements?
Oh là là, oui, plein d'autres problèmes. Alors, cette cire, elle peut constituer un agent de dissémination des bactéries, des parasites et des virus. Si on introduit des feuilles de cire contaminées dans ces ruches, les apiculteurs risquent d'introduire ou de propager des maladies qui peuvent s'étendre à tout leur cheptel. Parmi les bactéries véhiculées par la cire, on peut citer Paenibacillus larvae. C'est la bactérie responsable de la loque américaine, qui est une maladie très contagieuse, soumise à déclaration et qui, lorsqu'elle se déclenche, oblige à des quarantaines sur les ruches. Alors, pour détruire les spores de cette maladie, il faut appliquer un traitement thermique à 120 degrés pendant 24 heures. Vous imaginez bien que les apiculteurs ne mettent pas en œuvre ce traitement. Les ciriers peuvent le faire à condition qu'ils soient sérieux et qu'ils soient équipés pour cette mise en œuvre. Et puis, souvent, ce qui est prescrit par la littérature sanitaire, ce n'est pas appliqué dans la réalité, car la réalisation, elle est trop compliquée ou elle est trop coûteuse. Alors, il y a une autre bactérie que l'on peut trouver, c'est l'agent de la loque européenne. Donc, c'est une maladie moins contagieuse que la précédente, mais qu'il faut savoir reconnaître également. Et puis, la cire, elle peut aussi contenir les spores d'un champignon, tel que Acosphera apis, responsable de la maladie du couvain plâtré, ou des agents infectieux de la nosémose, que sont Nosema apis et Nosema serrana. Alors la nosémose, c'est une diarrhée, c'est la diarrhée de l'abeille, et c'est une maladie très embêtante et qui est à surveiller également.
Alors ça nous fait déjà une bonne liste des soucis en matière de qualité de cire. Est-ce qu'on en a fait le tour, Gaëlle?
Et malheureusement non, Lisa. Car pour finir de te dresser à toi et aux auditeurs de CFM le portrait plutôt déprimant des problèmes rencontrés avec la cire, je vais vous parler de l'adultération de la cire. Donc, adultérer un produit, c'est dégrader une substance pure en y mêlant une ou plusieurs substances étrangères de moindre qualité. Alors, on le sait, des ciriers peu scrupuleux mélangent de la cire d'abeille à d'autres cires, souvent d'origine végétale. Comme par exemple la cire carnauba, qui vient d'un palmier d'Amérique du Sud. Et cette cire végétale s'obtient en récoltant une résine collante qui exude sur les feuilles. Ensuite, c'est mélangé à la cire d'abeille. L'adultération se fait aussi à partir de la cire de jojoba. Donc, cette cire végétale, elle est issue des graines de la plante, de cette plante désertique qui pousse entre le Mexique et la Californie. L'adultération peut aussi se faire par ajout de graisse animale, telle que suif de bœuf. Et actuellement, la pratique la plus répandue, c'est d'ajouter des cires industrielles comme la paraffine ou la cire microcristalline, qui sont des cires issues de produits pétroliers. Et on trouve aussi des ajouts d'acide stéarique. On parle alors d'adultération à la stéarine, qui rend la cire beaucoup plus claire, et qui nous donne l'impression trompeuse que la cire est de meilleure qualité.
Et alors, même question qu'avec les résidus, est-ce que cette adultération de la cire, elle a un impact sur les abeilles?
Alors cette fois-ci, oui, les impacts sur les abeilles sont importants et délétères, c'est-à-dire qu'ils conduisent à la mort. Le couvain meurt, les nymphes sont perturbées dans leur métamorphose, et souvent ça mène également à la mort de la nymphe, et l'insecte n'arrive pas jusqu'à son stade adulte. Les abeilles refusent de construire sur ces cires et elles mettent en place des ponts de leur propre cire pour éviter de toucher à cette cire trafiquée. Leur travail en est ralenti. Évidemment, la colonie est affaiblie et c'est une porte d'entrée pour des maladies, pour un plus grave impact du varroa. Et les conséquences, c'est que les récoltes sont moins importantes puisque le développement des différentes générations d'abeilles ont été perturbées. La qualité de cette cire, elle va également dépendre de l'honnêteté des apiculteurs et de leurs bonnes pratiques. Il n'y a pas que les histoires de ciriers hein, qui font des adultérations. En effet, lorsque l'apiculteur y fait fondre sa cire pour l'échanger contre des feuilles de cire gaufrée, l'apiculteur y s'engage à ne faire fondre que des cires d'opercule obtenues lors de l'extraction du miel. L'opercule, c'est de la cire de l'année où il n'y a eu aucun traitement contre le varroa, donc pendant la pose des hausses, et les opercules sont indemnes de contaminants chimiques. Malheureusement, certains apiculteurs ne respectent pas ce bon sens et ils mettent sur le marché des cires provenant des cadres de corps. Cire qui, comme vous l'aurez compris, mérite juste de passer en bougie ou en encaustique pour les meubles.
Il faudrait donc que chaque apiculteur puisse produire ses feuilles gaufrées chez lui. Ce serait l'idéal.
Ça serait l'idéal pour un apiculteur de loisirs qui ne dispose que de quelques ruches. Il est difficile de faire faire ses feuilles de cire par un cirier. Alors pourquoi ? Parce que l'apiculteur de loisirs, il ne dispose pas de suffisamment de cire fondue à proposer et le cirier ne va pas démarrer ses machines pour produire 50 feuilles gaufrées. Alors il en est bien autrement pour les professionnels qui ont des besoins qui se chiffrent en milliers de feuilles gaufrées. Donc les professionnels, ils sont capables d'amener leur cire fondue et de récupérer leur cire fondue transformée. Nous, les apiculteurs de loisirs, c'est plus compliqué. Alors, une des solutions possibles pour nous, petits apiculteurs, c'est l'achat d'un gaufrier à feuilles pour faire les feuilles une par une, à condition d'avoir un peu de temps et un bon portefeuille. Car ces gaufriers manuels sont très chers. En moyenne, 1 500 € le gaufrier. Alors, une des solutions qui se pratique sur des ruchers écoles, c'est d'acheter à plusieurs. Ou bien par des prêts ou des locations sur des magasins de matériel d'apiculture.
Alors, on a fait le tour de tout ce qui était un peu horrible là, en matière de cire. Gaëlle, tu nous résumes un peu les bonnes pratiques à adopter dès qu'on débute en apiculture pour bien gérer sa cire.
Alors, il y a 5 grands principes à essayer de mettre en œuvre. Donc, en premier, l'apiculteur ne doit mettre sur le marché, pour la confection des cires gaufrées, que de la cire d'opercule. Je viens de vous le dire. À la fois pour ne pas contaminer le miel, mais pour ne pas contaminer la cire aussi. Il ne faut plus utiliser pour un usage apicole, c'est-à-dire ne pas refondre les cires des cadres issues de ruches malades. Ces ruches malades, ces cires-là, on les détruit par le feu, d'accord ? Et on ne les remet pas dans le circuit. Tertiaux, il ne faut pas faire fondre et réutiliser des cadres dont la cire est noire, pleine de détritus, et dont la cire est dure aussi. Et en plus, à la refonte, leur rendement en cire est très très faible. Donc ça ne vaut pas le coup. Ensuite, on ne réutilise pas la cire qui a été attaquée par la fausse teigne. C'est pareil, on s'en débarrasse, on la brûle. Et enfin, pour aller un peu plus loin, on peut aussi, même si on est apiculteur de loisirs, assurer la traçabilité et la gestion de nos cires, c'est-à-dire on ne mélange pas des cires de différentes qualités, cire de corps, cire de hausse, cire d'opercule et des cires qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un peu compliqué au début, mais si on arrive à bien s'organiser, à bien marquer ses cadres, on doit pouvoir y arriver. Et puis, on pense aussi à garder des échantillons de cire achetés. On conserve les documents correspondants, les factures d'achat, de transformation, les numéros de lot, le type de cire, si les attestations de gaufrage, si on en a sur un lot personnel, des résultats d'analyse, si on en a fait faire. Si un jour on a un problème avec les cires, on est en capacité d'avoir une traçabilité et de remonter un peu le circuit. Et puis voilà, comme je vous disais, si on est très pointilleux, on utilise une technique pour marquer ses cadres, pour tracer ces nouvelles feuilles de cire qu'on vient d'introduire dans nos ruches et pour bien surveiller si il n'y aura pas de problème avec ces nouvelles feuilles de cire.
Et alors, comment on fait pour récupérer cette cire, pour la réutiliser ?
Alors, il existe différentes méthodes, mais qui fonctionnent toutes sur les mêmes étapes. Faire fondre la cire, la filtrer, la couler dans des moules pour son stockage. Alors, pour la faire fondre, vous pouvez soit le faire en la plongeant dans une grande bassine ou un grand bidon métallique rempli d'eau. La cire et l'eau ne se mélangent pas. Lorsque la cire est liquide, On la ramasse à la louche et on la filtre avec des filtres métalliques qui vont bien entendu se boucher dès que la cire va refroidir dans les mailles du filtre. Alors évidemment, vous aurez compris que cette eau, il faut la chauffer. Hein. Voilà. Parce que je ne l'ai pas dit avant, mais ça me paraît évident. Vous pouvez utiliser ou vous fabriquer une chaudière à cire. Donc là, la cire va fondre aussi, mais elle n'est pas en contact avec l'eau. La chaudière, en fait, c'est un énorme bain-marie vapeur qui va faire fondre la cire. Et ensuite, elle s'écoule par un tuyau et elle sort soit déjà filtrée, soit à vous de la filtrer avec, pareil, des filtres métalliques. Vous pouvez aussi utiliser un sérificateur solaire à acheter ou alors à se fabriquer soi-même. Pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit bien isolé sur les côtés et le dessous afin de bien maintenir la chaleur dans une cuve en inox. Alors moi, ma technique, ça consiste à y placer des opercules bien rincés à grande eau, donc à enlever le plus de miel possible. Et ces opercules, je les tasse dans des vieux collants ou des vieux bas. J'obtiens ainsi des pains de cire très propres, parce que toutes les impuretés, elles restent dans le vieux collant. Et ce vieux collant, qui est devenu tout dégoûtant, ben hop, à la poubelle. Et comme ça, en plus, mon sérificateur, il reste bien propre. Quant à la vieille cire, moi, j'ai cessé de la récupérer. Je m'y suis amusée sur mes premières années. Mais en fait, ça demande vraiment trop de travail pour une maigre quantité qui finit en bougie. Je passe donc mes cadres de cire bien noirs au sérificateur solaire et je jette la cire obtenue. Ça me permet seulement de nettoyer mes cadres. Et puis ensuite, bah, je n'ai plus qu'à gratter mon sérificateur pour enlever toutes ces impuretés des vieux cadres. Alors, une autre solution consiste aussi à conserver vos vieux cadres jusqu'en hiver et de préparer un gros bidon métallique rempli d'eau très chaude, 70 degrés. Donc, il faut le faire chauffer avec une bouteille de gaz et puis un gros chauffe. J'ai perdu le mot, mais vous m'avez compris. Et dedans, vous allez rajouter de 3 à 10% de lessive de soude. Alors, ce bain, ça a l'avantage de tout nettoyer, la cire, la propolis, et ça sert également de désinfection.
Et pourquoi on attend l'hiver pour faire ce nettoyage ?
Eh bien, tout simplement parce que le fait de faire fondre de la cire, par n'importe quelle méthode, ça attire les abeilles. Et si vous avez votre rucher à proximité, ou le rucher de quelqu'un d'autre, ou un essaim sauvage dans un arbre, eh bien, les abeilles vont arriver. Alors, c'est pour cette raison que la fonte à la chaudière ou le bain de soude se pratique toujours l'hiver, par des journées bien froides, où on ne risque pas de voir débarquer des cohortes d'abeilles. D'ailleurs, le sérificateur solaire, je vous précise, lui, va être mis en route en été, puisqu'il fonctionne avec le soleil. Il faut donc faire bien attention à ce qu'il soit hermétique aux abeilles, parce qu'elles vont être attirées par l'odeur, elles vont rentrer à l'intérieur et elles vont venir y mourir. Soit prises au piège dans ce sérificateur, ou soit carrément elles vont se noyer dans la cire fondue. Et dans tous les cas, il faut vraiment penser à assurer votre sécurité, car la cire fondue, ça brûle, et la soude, lorsqu'on fait un bain à la lessive de soude, ça brûle aussi. Donc il faut installer ces chantiers cire de façon très stable. Il faut prendre son temps, il faut être attentif, il faut tourner 7 fois ses neurones dans son cerveau avant d'agir. Et comme je vous le dis souvent, en apiculture, la préparation et l'anticipation, c'est un gage de réussite. Et quand vous aurez réussi à récupérer de magnifiques pains de cire d'opercule, vous allez pouvoir, comme je vous le disais, soit les changer contre des feuilles de cire gaufrées, soit vous allez confectionner vous-même vos feuilles. Et avec cette cire très pure, vous allez également pouvoir en faire profiter les amis et connaissances qui fabriquent soit leurs produits de beauté ou qui confectionnent des films alimentaires enduits en cire d'abeille.
Et en conclusion de cette émission sur la cire, avec une recette très simple. Alors, je lis ce qui est écrit, très simple, pour préparer une crème hydratante naturelle et saine, Gaëlle.
Oui, alors c'est une recette qui est très connue. Hein. Alors, il en existe plein d'autres, vous en trouverez sur Internet, dans des livres pour valoriser la cire d'abeille. Donc en fait, il vous faut une cuillère à soupe de miel, 8 cuillères à soupe de cire d'abeille râpée que vous aurez mis en copeaux, 200 ml d'huile d'amande douce ou d'huile d'olive. L'avantage de l'huile d'olive, c'est qu'elle rancit moins vite. Il vous faut 2 petits bocaux en verre propres et désinfectés. Alors, dans un bain-marie, vous allez faire fondre tout doucement la cire, le miel et l'huile à feu très doux. Il ne faut pas que ça brûle. Hein. Dès que c'est liquide, vous retirez du feu et vous versez cette crème bien liquide dans vos bocaux en verre. Vous laissez refroidir, ça va durcir. Une fois que c'est bien refroidi, vous pouvez mettre les couvercles. Et voilà, c'est prêt. Et vous utilisez ça pour les mains, les pieds. Ça s'utilise aussi pour le visage.
On comparera notre teint le mois prochain, Gaëlle, pour la prochaine chronique Apis mellifera. Merci beaucoup.
Merci Lisa, au revoir.